Bonsoir, il est 18h, le moment de votre émission Une heure en Palestine, comme tous les mercredis sur Radio Galère 88.4, émission animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence, qui anime l'émission. Je suis Bernard. Et je suis avec Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Bernard.
Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook, Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à assopalestine13@gmail.com et à bdsprovence@orange.fr. À la lumière des événements récents, nous allons continuer d'analyser la façon dont les grands médias, propriétés des milliardaires, dans ce qu'il faut bien nommer un cyclone de sous-information, qui travestit la réalité et dont la vision est strictement monoculaire. Ces grands médias, qui à la suite du 7 octobre avaient enfin été contraints de briser l'omerta en raison de l'horreur des crimes menés par le Hamas, contraints aussi d'évoquer l'horreur de la vie des Palestiniens, faite d'humiliations permanentes. Ces médias mainstream ont choisi de travestir la réalité et surtout de diffuser en permanence un deux poids, deux mesures absolument insupportable au regard du blocus de Gaza ou de l'occupation hyperviolente de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Les bombardements de Gaza, avec une guerre qui peut s'apparenter à une guerre d'extermination, ont fait, à l'heure où nous parlons, plus de 25 000 morts, dont 5 500 enfants, et sans doute autant de blessés graves qui conserveront des séquelles pour le reste de leur vie s'ils survivent. Et pour mesurer l'extrême violence du carnage dont Israël est responsable, ces bombardements sont équivalents à ce que la Russie a largué sur l'Ukraine depuis février 2022. Sinistre comparaison qui donne une idée du projet militaire israélien, qui s'apparente avant tout à l'effacement de la population gazaouie, une forme de génocide qui laisse Macron, notre président de la République, absolument silencieux. Une séquence produite par la chaîne d'opinion en continu, parce que c'est comme ça qu'il faut nommer ces chaînes, s'est livrée à un bidonnage, et elle s'est soldée, cette séquence, par un bidonnage suite à une intervention de Dominique de Villepin, dans laquelle celui-ci s'en prend vivement aux gros médias en déclarant qu'ils ne sont pas libres pour la simple raison que la force financière qui les soutient veille à une ligne idéologique que les rédactions doivent accepter et diffuser à longueur de temps par le deux poids, deux mesures qui a remplacé l'omerta depuis le 7 octobre. Une autre attitude entraînerait le courroux de leur patron. Nous allons écouter l'extrait de ce passage. L'ex-premier ministre est sur TMC et participe à l'émission Quotidien. Grâce à la chaîne Le Média, nous allons vous faire écouter ce moment de falsification. C'est Théophile Kouamouo qui nous présente ce bidonnage en présence de Daniel Schneiderman, son invité et créateur du site Arrêt sur Image. Tendez bien l'oreille et vérifiez si vous entendez Villepin prononcer la force juive.
Merci Bernard. On va écouter cet extrait. Donc Daniel Schneiderman, c'est bien que tu fasses un peu de publicité à son site Arrêt sur Image, qui est vraiment excellent et qui décrypte les médias. Et Daniel Schneiderman, juif lui-même, il en parle assez souvent, a une vision très très différente de ce qu'ont les médias mainstream sur ce qui se passe en Palestine actuellement. Donc merci d'en faire la publicité. Je suis abonné et c'est très très bien.
La situation au Proche-Orient, on l'a vu, sert au règlement des comptes politiques et médiatiques en France et les médias dominants, plus que jamais, se sont mis au service de ce qu'on pourrait appeler la ligne dominante. BFM TV n'échappe pas à la règle. BFM de Patrick Drahi, qui contrôle aussi I24, la chaîne d'info ouvertement pro-israélienne, BFM a analysé de manière assez particulière, on va dire, les propos que Dominique de Villepin avait tenus sur le plateau de Quotidien pour parler du poids de la finance sur le journalisme, l'art et la culture. Pour analyser ce positionnement médiatique sur le conflit au Proche-Orient, poussé jusqu'à son paroxysme dans cette séquence, j'accueille Daniel Schneiderman pour l'entretien d'actu. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Théo.
Merci d'être aujourd'hui sur le plateau du Média. Depuis le 7 octobre et le retour de la guerre chaude entre l'État d'Israël et les groupes armés palestiniens, la France se déchire. La NUPES, coalition de gauche qui était porteuse d'espoir, a explosé. La France insoumise et l'extrême gauche, je pense au NPA par exemple, sont désormais présentées ouvertement comme des soutiens au terrorisme. L'extrême droite s'est offert une sorte de nouvelle virginité en participant à la manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. Les repères sont brouillés et les grands médias sont agités de l'intérieur par les tensions tout en étant accusés de pratiquer le deux poids, deux mesures. Dans ce contexte, toi qui es le fondateur d'Arrêt sur Image, qui anime désormais un blog sur ce site spécialisé dans la critique média, tu ne chômes pas. Tu as notamment écrit un article au titre évocateur « Tuer Villepin, mode d'emploi ». Avant d'en parler, on regarde un petit magnéto, un petit montage de nos amis du compte Twitter « Caisse de grève » qui a le mérite de poser le décor.
Dominique Villepin était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dit, il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit, c'est la même chose en France. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales.
À quel point la domination financière sur les médias.
Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales.
Il considère visiblement que les juifs, et notamment aux États-Unis, tiendraient la finance et à travers ça contrôleraient les médias et le monde du spectacle.
On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce que ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public.
C'est une rhétorique antisémite classique.
Est-ce que quand on parle d'un, pardon de l'exploit du raccourci, un petit arabe en banlieue en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile. Et là, on parle d'un ancien Premier ministre de la France et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment, vraiment dire.
Alors Daniel, le titre de ton article, Tu es Villepin, mode d'emploi, indique que tu contestes la légitimité des accusations d'antisémitisme qui visent l'ancien Premier ministre et ancien chef de la diplomatie française. Dominique de Villepin.
Avant de parler de légitimité ou de pas de légitimité, il faut juste remarquer que ça, c'est un bidonnage grossier et un trucage grossier de la part de BFM des propos de Villepin. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qu'on peut ajouter à ce montage du compte Caisse de grève. Je veux dire, un montage éloquent, tu sais, c'est toujours mieux qu'un grand discours. Donc, je ne vais pas faire un grand discours derrière.
Donc, vous n'avez pas entendu Dominique de Villepin prononcer la force juive incrusté par BFM sur son écran au moment du bidonnage. Ce sont les journalistes de plateau avec carte de presse, pas des stagiaires, qui opèrent cette pirouette en l'incrustant sur l'écran de BFM, se donnant ainsi le droit de traiter l'ex-premier ministre d'antisémite. Ce qui se passe revient à dire que tous les clichés sur l'imaginaire juif non vérifiable seraient traités d'antisémitisme. Par exemple, les forces financières dont parle de Villepin, bientôt les vocations de tailleurs qui auraient raté leur confection, et même François Hollande qui en 2012 avait hurlé sans problème « Je n'ai qu'un ennemi, c'est le monde de la finance ». La triste réalité, c'est qu'à force de crier à tout propos l'antisémitisme, les sionistes pensent ouvrir un parapluie universel qui les mettrait à l'abri de toutes les critiques. Mais l'hostilité à la sale guerre de Gaza embrase la rue internationale. Bien sûr, pas la Commission européenne, qui calque sa position sur celle de l'Allemagne, qui n'a jamais eu un seul mot de condamnation depuis 1948 pour les crimes commis par Israël. Leur culpabilité pour la Shoah les fera boire le calice de la honte jusqu'à ce qu'ils pourraient se trouver au-dessous de la lie du calice et ensuite ils le dévoreront. Ne pas oublier que même Amnesty International Allemagne a refusé de diffuser le rapport de l'ONG sur la Palestine qui faisait enfin état de l'apartheid d'Israël à l'égard des Palestiniens.
Alors, en parlant d'Allemagne, il est sorti quelque chose là ces derniers jours à propos des gens qui demandent la naturalisation en Allemagne. Et donc, pour espérer avoir la naturalisation allemande, quelqu'un qui en fait la demande doit absolument reconnaître publiquement le droit à l'existence d'Israël. Non pas l'existence d'Israël, puisqu'Israël existe en réalité, quoi, mais le droit à l'existence. Par contre, on ne leur demande pas de reconnaître le droit à l'existence du peuple palestinien qui est en train de se faire massacrer.
C'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable que pour une accession à la nationalité d'un pays, on demande d'en reconnaître un autre. C'est très étrange.
Ouais, ouais, ouais. Mais bon, l'Angleterre avait déjà commencé en donnant un pays aux Juifs qui ouais. leur appartenait pas, quoi. Alors maintenant, donc, nous allons parler de voir un peu ce qu'il y a derrière la situation à Gaza. Il y a un article qui est paru dans l'Humanité. Derrière la guerre à Gaza, gaz, pétrole et pipelines. Donc, voilà. On va nous dire qu'on est antisémite parce qu'on parle de pognon à cause des sionistes. Donc, l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, elle a pour conséquence le gel de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, qui était en fait la seule normalisation qui pourrait permettre la mise en place d'un corridor économique reliant la région à l'Europe via les ports israéliens d'Ashkelon et Haïfa. C'est une voie nécessaire pour ne plus dépendre des combustibles fossiles russes. Pour cela, l'enclave palestinienne doit être sous contrôle. Donc, on va leur voler leur pétrole. Hein. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc, même si ce n'était pas le but originel. Quand on voit quand même ce qui se passe, le but, c'était quoi? C'est de dire, bon, on prend... Alors, il y a un autre article qui est paru là aussi par un journaliste qui raconte, il reprend un peu toute la propagande israélienne de ces dernières semaines sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et en fait, il démontre qu'il n'y a aucune preuve de tout ce qui est raconté, les assassinats de femmes enceintes qui ont été éventrées, les femmes violées. Alors, il y a peut-être eu, hein, je ne dis pas le contraire, mais aujourd'hui, Israël n'a apporté aucune preuve, il a fait que de la propagande. Donc, on peut quand même se dire, mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi on n'a pas de preuves? Ça fait penser à l'adage qui dit « tu veux tuer ton chien, accuse-le, tu dis qu'il a la rage ».
Voilà.
Donc, mais... en fait, le but, c'est peut-être de tuer un maximum de Palestiniens.
Mais surtout, moi, j'en reviens aux médias, pour nous rappeler quand même que les pires informations qui ont été diffusées, à savoir peut-être la plus grossière, à savoir que sous l'hôpital de Gaza, il y avait une armurerie monstrueuse du Hamas, ils ont soulevé la couette d'un lit, je crois, pour montrer une Kalachnikov minable qui était là, ouais. Mais il n'y a rien eu de tel. Donc, les médias en question d'opinion continue reprennent ce que dit les porte-paroles de l'armée israélienne. Ils reprennent ça parce qu'il y a un porte-parole, tu sais, dans l'armée israélienne, il y a un porte-parole par langue.
Ouais.
Donc, nous, on a droit au porte-parole en langue française. Et donc, à chaque fois que lui intervient, les grands médias, là, Madame El Krieff et compagnie, ils reprennent ça comme si c'était une vérité. vérifié, alors
Alors,
que c'est pas vrai.
non, y a rien de. Alors, donc, vouloir se débarrasser de la population palestinienne, c'est aussi ce que montre la proposition de Jorah Eiland sur Gaza. Hein. Donc, en fait, Jorah Eiland, c'est un des agents penseurs issus de l'armée. Il a une carrière militaire impressionnante à la tête de la division des opérations et de la planification de l'armée et à la tête du Conseil national pour la sécurité. Donc, c'est un grand ponte, quoi. Donc, Eiland ne va pas bien. Il a même écrit un livre sur sa souffrance. Et puis, il a eu une idée. Donc, on sait qu'à Gaza, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture, il y a une promiscuité incroyable, il y a des maladies qui se répandent. Hein. Et lui, il a dit, les épidémies à Gaza sont bonnes pour Israël. Après tout, de graves épidémies dans le sud de la bande de Gaza nous rapprocheront de la victoire et réduiront le nombre de blessures parmi les soldats de l'armée israélienne. Il a écrit ça cette semaine dans Yediot Aharonot, un journal israélien. Et il dit, il suffit que les filles des leaders du Hamas contractent la plaie et c'est gagné. C'est un peu comme les nazis qui répandaient des maladies. Non, mais c'est incroyable. Donc, il n'a pas donné de détails sur quelle plaie il recommande. Hein. On ne sait pas s'il parle de peste, de furoncle, choléra, encore que le choléra, ça risque d'arriver. Peut-être un cocktail de petite vérole et de sida. En tout cas, c'est pratiquement sûr, la famine pour 2 millions de personnes. Une promesse de victoire israélienne à un prix imbattable. Et non, ce n'est pas de la cruauté pour la cruauté, a-t-il insisté, comme si on pouvait vraiment penser le contraire.
Alors continuons avec cette analyse des médias, parce que ce que ces médias ne disent pas, ces médias d'opinion en continu, hein, chaînes d'opinion en continu, BFM, LCI, CNews, c'est le rôle que pourrait tenir la CPI, la Cour pénale internationale, dans cette guerre. En effet, un groupe de 80 avocats s'est constitué en force de recours auprès de la CPI, afin que des enquêtes soient ouvertes. Toujours grâce à la chaîne Le Média, sous le titre « La CPI peut-elle juger Israël ?», point d'interrogation, une armée d'avocats porte plainte pour génocide. Nous allons écouter Nadia Lazouni du Média, qui s'entretient avec l'avocat Gilles Devers, porte-parole du groupe. La chaîne Le Média, qui choisit de dire ce qu'aucune autre chaîne n'ose aborder, est présente sur YouTube, mais également sur le canal 350 de la Freebox, chaîne qui fonctionne grâce à ses abonnés à partir de 5 euros par mois, sinon gratuitement sur YouTube. Écoutons maintenant l'avocat Gilles Devers, interviewé par Nadia Lazouni.
C'est bien, Bernard, c'est la deuxième fois que tu fais de la pub pour
Ah ben oui.
un média intéressant. Non, mais voilà, c'est très bien. Alors, je crois que depuis que tu as récupéré l'article, on parle de 300 avocats parce qu'il s'est internationalisé, s'il devait, donc il faudra éventuellement vérifier. Et alors, Palestine 13 est assigné l'appel à la CPI de Gilles Devers et l'AFPS Alsace, où je suis, ne l'a pas encore fait, mais pourrait bien le faire très prochainement. On est en train d'en discuter. Donc, on écoute Gilles Devers.
Alors, bonsoir, maître Gilles Devers. Vous m'entendez bien?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, parfait. Vous êtes avocat au barreau de Lyon. Vous êtes à l'initiative d'une plainte collective contre Israël pour génocide et crimes de guerre devant la Cour pénale internationale, hein, cette institution judiciaire internationale créée en 2002, juge les auteurs des crimes internationaux les plus graves. Cette plainte réunit plus de 500 avocats français et internationaux. Elle a été déposée le jeudi 9 novembre dernier au siège de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Avant toute chose, maître Devers, vous confirmez que la CPI est compétente et a les pouvoirs de traduire Israël devant ses juges. Si je vous pose la question, beaucoup estiment qu'Israël échappe à la justice internationale et qu'elle n'a pas ratifié la CPI.
Oui, effectivement, en entendant ça de manière récurrente, mais bon, moi je suis bien habitué à ce discours qui est de discréditer le droit international parce qu'on le redoute. Bon, la situation, elle est parfaitement claire. Il y a eu un débat sur le sujet qui a occupé une procédure qui a duré à peu près un an où ont participé 80 parties. Il y en avait au moins 50 qui y étaient pour la partie israélienne et ça s'est tranché par une décision de la Cour du 5 février 2021, qui a dit que la Cour était compétente. Donc, il n'y a pas de débat. Voilà. Ensuite, elle dit quoi, la Cour? Elle dit des choses très importantes. Et c'est pour ça que, même si la CPI n'a pas que des qualités, même si il y a des choses qu'on pourrait modifier, il faut bien mesurer pourquoi on choisit la CPI. La Cour a dit que la Palestine est un État. Donc, je pose la question. Est-ce que vous connaissez beaucoup de juridictions ou d'instances internationales qui ont dit la Palestine est un État à égal des autres et donc un Palestinien est un égal des autres? C'est-à-dire qu'il y a un endroit où les Palestiniens sont à l'égal des autres, eh bien c'est à la Cour pénale internationale. Et la Cour a en outre statué que cet État était souverain sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Ce qui veut dire que cet arrêt sur la compétence a déjà pratiquement tranché la question de l'illégalité de l'annexion de Jérusalem-Est. J'entendais l'autre jour Jacques Attali disant « bon, il y a des choses qu'il faudra régler, mais Jérusalem-Est, on le garde ». Mais comment tu le gardes? C'est quoi? Donc la justice s'est prononcée, il faut quand même respecter le droit. Et surtout que ce droit est complètement logique. Donc Jérusalem-Est a été déjà jugé, est une souveraineté palestinienne. Et ensuite, la Cour a jugé que le gouvernement de Ramallah, donc le gouvernement de l'État de Palestine, était en mesure de transférer sa compétence pénale à la Cour. Voilà. Donc le procureur, il a de quoi enquêter pour tous les faits qui se sont commis, dont un élément est commis sur le territoire, et ça concerne aussi bien M. Netanyahou que M. Biden comme complice, ou l'inverse, parce que on commence à se poser la question de savoir qui est le vrai maître des opérations.
Merci beaucoup pour cette clarification. On va s'intéresser maintenant à la plainte en elle-même. Au lendemain de l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023, fomentée notamment par la branche armée du Hamas contre Israël, l'État hébreu s'est lancé dans une vengeance aveugle contre l'ensemble de la population palestinienne et pas seulement Gazaoui. Très tôt, une experte des droits humains a dénoncé un nettoyage ethnique. Vous parlez plutôt d'un génocide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, les conditions d'un génocide sont réunies?
Pour moi, les conditions du génocide sont réunies parce que j'ai des faits et que ces faits correspondent à une base légale. J'insiste qu'il y a un véritable mouvement qui s'est créé. Vous dites que vous avez rappelé que ce soir, il y a 500 avocats à travers le monde qui ont signé ces plaintes, puis un comité de professeurs de droit international. Donc, on sait quand même à peu près ce qu'on raconte. Et la base, elle est notre métier, rien de plus. Et je dis à tout le monde, c'est notre déontologie, ce que l'on fait. Quand c'est plus c'est compliqué, plus il faut rester à notre base. On regarde les faits, un avocat sait regarder les faits, du moins il doit le savoir. Ensuite, on cherche quelle est la base juridique. Après, on défend un argumentaire, on cherche à convaincre le juge. Voilà, c'est ce que nous faisons. Rien de moins, rien de plus, mais ça change tout. Et alors, quels sont les faits? Si vous les prenez isolément, ce sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Par exemple, le largage de bombes au phosphore sur des zones habitées pour brûler les gens. C'est un crime de guerre manifeste. On voit des scènes d'humiliation avec des prisonniers palestiniens, je ne sais pas quel titre il peut être prisonnier d'ailleurs, qui montent dans un bus et ils sont nus, dénudés, et ils se prennent des coups de la part des soldats israéliens qui ont l'air de vraiment bien s'amuser avec ça. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité. Mais il ne faut pas prendre par morceaux, il faut prendre globalement et voir ce que dit la jurisprudence. Alors déjà, dans les statuts de la Cour, vous avez l'article 8, ce sont les crimes de guerre, l'article 7, ce sont les crimes contre l'humanité, et l'article 6, c'est le génocide. Donc le génocide, il est au-dessus de tout. Voilà. Et dans le génocide, on a deux définitions. Il y en a cinq, mais il y en a deux qui sont importantes. Il y en a une, c'est l'extermination physique des populations. Donc, c'est très clairement le génocide de juifs sous les nazis. Bon, c'est pas le cas à Gaza. C'est pas le cas. Ce qui est le cas à Gaza, c'est la deuxième définition du génocide, c'est-à-dire une action déterminée pour détruire une société, un lien social, un groupe social.
tu as parlé des chaînes d'information en continu. Alors, c'est un titre que j'ai trouvé dans le monde diplomatique, mais tu as plutôt parlé effectivement des chaînes d'opinion en continu. Donc, le monde diplomatique du mois de novembre a fait un peu une analyse des chaînes d'information en continu, un peu comme le fait Daniel Schneiderman dans Arrêt sur image. Et c'est un peu notre 11 septembre, notre 13 novembre à nous. Il faut imaginer 200 Salah Abdeslam, 200 Mohamed Merah qui débarquent en France et qui commencent à attaquer les civils français. Voilà ce que l'on a pu entendre le 7 octobre sur la chaîne BFM TV, basculée en édition spéciale en direct de Tel Aviv. Ça correspond exactement à ce que tu disais tout à l'heure. En plus, quand ils ont trouvé un os à ronger, eh ben, ils vont jusqu'au bout. Hein.
Là, je ne sais pas, oui.
Alors, en direct de Tel Aviv, Julien Baloul, spécialiste de la société israélienne, raconte les bunkers, les disparus, la panique dans les rues. Ce franco-israélien très présent sur X, donc qui est présenté comme spécialiste de la société israélienne, il est en réalité un ancien journaliste de la chaîne I24 News basée à Tel Aviv. C'est une chaîne de Drahi. Il faut boycotter SFR, tout ce qui est autour de SFR maintenant. Hein. Surtout que Drahi, il a une fondation, j'ai vu avec sa femme, qui envoie des colis, comme Carrefour le fait d'ailleurs, aux soldats israéliens. Ils ont construit aussi, dans un centre d'entraînement de la marine israélienne, ils ont construit une salle de relaxation pour que les soldats se sentent bien.
Oui, dans un coin de Gaza, hein, ils ont installé ça, non ?
Non, c'est près d'une base militaire maritime en Israël. Donc, ce franco-israélien, il a été au communicant au sein de l'armée israélienne. Et en fait, ses propos vont être recueillis pas moins de 5 fois dans la journée par la chaîne d'information continue. Dans les premières heures qui ont suivi l'offensive lancée par le Hamas contre Israël, au petit matin du samedi 7 octobre, l'ensemble du monde médiatique français place le sujet en priorité absolue. Et BFM TV consacre plus de 45 heures au sujet dans les premières 72 heures de la crise, donc plus de la moitié du temps. Elle profite de son appartenance au groupe Altis, de Drahi donc, avec I24 News, pour inviter les éditorialistes de cette chaîne à commenter la situation en plateau entre deux interventions d'officiels israéliens. Et en fait, c'est d'ailleurs d'I24 News que partira la fausse information des 40 bébés décapités mardi 10 octobre. Sa correspondante en duplex depuis le kibboutz de Kfar Aza, où l'armée israélienne a convié les journalistes, rapporte qu'une quarantaine de bébés ont été transportés sur des brancards. Quelques heures plus tard, elle ajoute le détail macabre des têtes coupées. Ils ne savent plus quoi inventer, hein, franchement. Le lendemain, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, interrogé par l'agence France Presse, admet qu'il n'est pas en mesure de confirmer le nombre de 40 bébés assassinés. Voilà, décapité. Donc tout à l'heure,
décapité.
Et en plus, surtout pas décapité. Même les 40 bébés, on ne les a pas trouvés. Quoi, hein,
oui, c'est ça. C'est surtout ça qui fait problème, c'est que personne ne l'a vu et tout le monde a des chaînes françaises d'opinion continue, cite ça comme si c'était un fait réel. Donc, on peut s'interroger sur leurs compétences de journalistes, quand même.
Ben, je ne sais pas si c'est pire que leurs compétences de journalistes.
Non, mais quand on dit que...
Ils font de la propagande en toute conscience, pour moi.
Ben oui, d'accord.
Donc, c'est encore plus grave, quoi. Franchement, je ne comprends pas. Hein. Mais bon, voilà, c'est le nos chaînes d'info. Hein. Donc voilà pour ce qui concerne les chaînes d'information continue. Donc troisième journal pour lequel on fait la publicité, c'est Le Monde diplomatique. On y entend un peu quelque chose d'un peu plus près de la réalité.
Bien, nous allons maintenant écouter une chanson du groupe arabo-suédois Kofia. Donc c'est une chanson qui date de 1976 en suédois. Donc, je vous traduis juste le premier paragraphe. Vive la Palestine et écrasons le sionisme. Vive la Palestine et écrasons le sionisme. Vive, vive, vive la Palestine. Vive, vive, vive la Palestine. Vive la Palestine et écrasons le sionisme. Et nous avons cultivé la terre et nous avons récolté le blé. Nous avons cueilli les citrons et pressé les olives. Et le monde entier connaît notre terre. Et le monde entier connaît notre terre. Vive, vive, vive la Palestine. Voilà, nous écoutons ça maintenant.
Live Palestina, o grossa sionismen.
Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen.
Vi har odlat jorden,
och vi har skördat vetet,
och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna,
och vi har plockat citronerna,
och pressat oliverna,
och pressat oliverna.
Och hela världen känner till vår jord,
och hela världen känner till vår jord.
Live, live, live Palestina. Live, live Palestina, live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen.
Och vi har kastat stenar på,
och vi har kastat stenar på
soldater och poliser,
soldater och poliser.
Och vi har skjutit raketer,
och vi har skjutit raketer
mot våra fiender,
mot våra fiender.
Palestina, o grossa sionismen.
Och vi ska befria vårt land,
och vi ska befria vårt land
från imperialismen,
från imperialismen.
Och vi ska bygga upp vårt land,
och vi ska bygga upp vårt land
till socialismen,
till socialismen.
Och hela världen kommer att bevittna,
och hela världen kommer att bevittna.
Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. 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 Live Palestina, o grossa sionismen.
Palestina, o grossa sionismen.
Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen.
Vi har odlat jorden,
och vi har skördat vetet,
och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna,
och vi har plockat citronerna,
och pressat oliverna,
och pressat oliverna.
Och hela världen känner till vår jord,
och hela världen känner till vår jord.
Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina.
Et après, on sait que aux États-Unis, il se passe des choses aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Hier, ils ont montré aux informations, tant ils montrent des choses, comme quoi il y avait une élue républicaine du Sénat américain qui interrogeait les deux directrices d'universités. Il y avait Harvard et puis je ne sais plus laquelle. Et donc, en leur disant, mais à partir du moment où il y a un appel au génocide contre des juifs, parce qu'il semblerait qu'a priori il y a eu ça sur les campus, voilà ce que disait cette sénatrice américaine. Et en fait, les deux directrices se sont appuyées toutes les deux sur le deuxième amendement, ou je crois celui qui dit que la liberté d'expression, elle est absolue, ce qui permet de tenir des propos nazis, etc., aux États-Unis, quoi.
Oui.
Et donc, en fait, c'est vrai que quand même aux États-Unis, les jeunes, ils sont en train de réagir assez fortement.
Oui, mais la jeunesse juive, hein, est en train
juive, de... Non, mais pas uniquement. Il y a Biden qui est en difficulté par rapport au sondage, parce que les jeunes ne vont plus voter pour lui, mais pas que les juifs, tous.
Ah, d'accord.
Et en fait, il y a Orient 21 qui a sorti un article qui dit « Les jeunes nord-américains se souviennent de l'origine coloniale de leur pays. » Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des premiers génocides, c'est quand même celui des Indiens d'Amérique, que les ascendants des États-Unis ont pratiqué, quoi.
25 millions.
Voilà. Alors, en fait, dans l'article commence par « From the river to the sea, Palestine will be free. » De la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Donc, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée, la Palestine sera libérée. Et en fait, le 4 novembre 2023, il y a eu 25 000 personnes qui se sont rassemblées, Place des Arts, au cœur de Montréal. Ils ont scandé ce slogan central des manifestations pour la libération de la Palestine. Le même jour, les rues de Toronto, Washington et New York étaient noires de monde. Rien à voir avec les petites manifestations chez nous. Depuis le début de la guerre que livre Israël à Gaza après l'attaque du 7 octobre, le centre-ville des métropoles nord-américaines se transforme tous les week-ends en lieu d'exutoire. Chaque nouvelle manifestation mobilise de plus en plus de jeunes participants, parfois même des adolescents. Il faut bien constater que le soutien à la Palestine n'est plus essentiellement réservé à la jeunesse d'origine arabe, sensibilisée à la cause palestinienne, culturellement transmise de génération en génération. Et donc le journal s'interroge, qu'est-ce que c'est qui pousse ces dizaines de milliers de jeunes à s'engager pour les droits des Palestiniens? Pour le comprendre, il est essentiel de se pencher sur le passé colonial nord-américain et le devoir de mémoire que la jeunesse s'impose envers les personnes autochtones. De ce fait, les théories humaines et sociales critiques, notamment décoloniales, ont une grande résonance chez cette jeune génération. Si la France perdure cette fâcheuse tendance à les rejeter, les taxant péjorativement de wokistes, les Américains du Nord s'éduquent aux écrits d'Edouard Saïd, Frantz Fanon. La remise en question des structures impérialistes et coloniales est au centre de la recherche académique américaine et la critique du canon occidental est un incontournable des programmes en sciences politiques. Donc ces jeunes-là, là-bas, ont tout compris, alors que chez nous, dès que... Parce qu'on a quand même un passé colonial pas très glorieux, hein, si on regarde ce qui s'est passé en Algérie. Mais
il y a de très intéressant, je trouve, dans ce que tu dis là, c'est que au fond, il y a le Sud global qui, à mon avis, est pas trop d'accord avec Israël, c'est-à-dire ce grand Sud tel qu'on le décrit aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que la rue, dans l'ensemble du monde, est opposée à cette guerre et au rôle que joue l'armée israélienne. Cette armée invincible dont on nous raconte les exploits, qui finalement est une armée de guerre préventive, comme elle l'a fait dans ce qu'on appelle la guerre des six jours, alors qu'on a fait passer Moshe Dayan pour un grand stratège. Tu parles de stratège, tu bombardes les pays, tu bombardes toutes tout ce qui vole en Égypte et après tu fais la guerre, je vois pas où est l'exploit. Bon, maintenant, on assiste à quoi? On assiste au tapis de bombes sur Gaza, ce qui veut dire que les stratèges israéliens, c'est leur surarmement, c'est pas du tout leur cervelle.
Oui, c'est la supériorité militaire qui fait que...
C'est tout, bien sûr. Ouais. C'est pas Napoléon à Austerlitz. Hein.
Ouais. Mais quand tu dis la rue, elle n'est pas d'accord, enfin, elle n'est pas d'accord avec cette guerre, contrairement aux médias et aux élites, on va dire.
Élites,
ouais. Mais en fait, si on réfléchit bien, quand tu entends ce qui se passe, que les hôpitaux sont attaqués, les gens sont couchés sur le sol, alignés, des enfants à partir à la naissance pratiquement jusqu'à et qui sont amputés et ils ont, alors que les médecins n'ont même pas d'anesthésique, dans des trucs. Mais comment ils peuvent arriver à laisser faire un truc pareil, quoi. Enfin, la moindre trace d'humanité chez quelqu'un doit l'obliger à dire, mais c'est une horreur et on n'a pas le droit de laisser faire ça.
Oui, mais...
Comment nos dirigeants peuvent dire le contraire?
Oui, mais la question, Jean-Yves, c'est ce que tu soulèves. La question de l'humanité, elle est aussi, il y a aussi là deux poids, deux mesures.
Ouais.
On est obligé de constater que les morts palestiniennes, les morts de Gaza, ça met pas le monde sans dessus dessous. Hein.
Ouais.
On compte les morts, on se désole, mais comparé au barouf que font les médias autour des Israéliens, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ce qui s'est terriblement aggravé chez nous. C'est ce qui s'est passé à l'occasion d'une engueulade entre la journaliste Ruth El-Krieff et Mélenchon, qui fait que le président du Sénat ose dire publiquement à Mélenchon « ferme ta gueule » et que se retrouve alors exfiltré de ce qu'on appellerait, je ne sais pas ce que c'est, l'arc républicain, la France insoumise, alors qu'on déroule le tapis pour l'entrée du RN dans cet arc républicain. Ça donne, ouais. Ça donne pas du tout de bonne... Ça crée des sensations évidemment épouvantables pour ce qui risque de se passer dans notre pays, je trouve, ce virage-là. C'est-à-dire que le RN devient un parti respectable et celui à qui on veut faire porter le chapeau du parti le moins aimé, le moins crédible et tout ça, deviendrait la France insoumise. C'est une monstruosité. Les événements de la guerre de Gaza ont eu tendance, depuis le 7 octobre, à jeter un voile sur ce qui se passe en Cisjordanie, alors que la Cisjordanie vit aussi un enfer. Près de 300 Palestiniens ont été tués par l'armée depuis le 7 octobre en Cisjordanie, mais aussi par des colons qui ont été armés en direct à la télé. J'ai vu ça, j'étais sidéré. Le ministre Ben Gvir qui distribue des armes, des fusils d'assaut, des colons. Mais venez, servez-vous et rentrez chez vous. Constituant ainsi une milice qui serait celle du ministre d'extrême droite, Ben Gvir. Alors c'est avec Stéphanie Latt-Abdallah, historienne, directrice de recherche au CNRS et autrice d'un livre que nous vous recommandons, « La toile carcérale » aux éditions Bayard, que nous allons évoquer la situation en Cisjordanie. C'est encore Nadia Lazouni du Média qui mène l'entretien.
Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes de retour pour la deuxième partie et dernière partie de Toujours Debout en compagnie de Stéphanie Latt-Abdallah. Elle est historienne et anthropologue du politique, directrice de recherche au CNRS. Elle est également l'auteur de La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine, publiée aux éditions Bayard. Ensemble, nous discuterons de la situation en Cisjordanie occupée où la violence de l'armée israélienne et des colons s'accentue contre les Palestiniens depuis le 7 octobre. Selon le ministre palestinien palestinien de la santé. Près de 240 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons depuis 7 octobre. La colère enfle en Cisjordanie. Des experts comparent ce territoire occupé à un chaudron qui risque d'exploser. Doit-on craindre l'ouverture d'un deuxième front en Cisjordanie? C'est la question qui se pose aujourd'hui avec une acuité particulière. Hier encore, de jeunes enfants ont été tués par des soldats dans le camp de Jenin où l'armée israélienne y multiplie les incursions. Bonsoir Stéphanie Latté-Abdella.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement vu passer ces terribles images de vidéosurveillance où l'on voit deux enfants tués par les balles de l'armée israélienne à Jenin. Ces morts s'ajoutent aux 240 Palestiniens de Cisjordanie occupés, abattus par des soldats ou des colons depuis 7 octobre. Les violences en Cisjordanie, ce n'est pas un fait nouveau. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation dans ce territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État hébreu? Quelle est l'ampleur de la colonisation et les conséquences au quotidien pour les Palestiniens?
En effet, depuis les accords d'Oslo, donc dans les années 90, la colonisation, le nombre de colons a été multiplié par 3. Donc on arrive aujourd'hui à 500 000 colons en Cisjordanie et 200 000 à Jérusalem-Est. Avec, il faut le dire, quand même différents catégories de colons et de colonies. Je pense que c'est important à rappeler. Donc on a ces colons nationalistes religieux qui sont ceux qui sont extrêmement agressifs et qui conduisent des attaques de plus en plus régulières et de plus en plus violentes, pas seulement depuis le 7 octobre, mais encore plus depuis le 7 octobre. On en avait à peu près 3 par jour, on en a 7 depuis le 7 octobre, donc c'est extrêmement violent, et je reviendrai sur ce point. Mais on a aussi des colons d'un autre type, c'est-à-dire classe moyenne, qui se sont installés parce que les loyers sont moins chers dans les colonies, puisqu'il y a des subventions de l'État, et qui n'ont même pas vraiment conscience de vivre en territoire occupé pour une partie d'entre eux. On a aussi des colonies industrielles, des colonies agricoles, donc qui sont implantées. Et donc, en fait, il y a aussi des acteurs privés de ces entreprises, de ces colonies agricoles, qui sont des acteurs de la colonisation. Donc, ce qui explique où il y a des produits qui sont faits à moindre coût, etc. Donc, ce qui explique aussi l'emprise de cette colonisation, qui ne fait que s'accroître avec une perspective d'annexion, qui était celle qui était annoncée par les ministres suprémacistes juifs Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Donc, c'était clairement annoncé. Et donc, voilà, la situation est celle-ci. Multiplication des violences de colons pour plusieurs raisons. Donc, déjà depuis un moment, puisqu'il y a cette idée que, justement, maintenant qu'ils ont des ministres qui appartiennent exactement au même milieu, je parle des colons très extrémistes, du coup, il y a une sorte de blanc-seing, de possibilité d'agir de quelconque manière. Depuis le 7 octobre, distribution d'armes par ce même ministre Ben-Gvir, si tant est qu'ils avaient besoin d'être armés, parce qu'ils l'étaient déjà. Donc ça aussi, ça rajoute à cette violence. Et en plus, cette idée qu'on certains que ça y est, ils vont pouvoir réaliser cette fameuse Nakba, cette fameuse éviction des Palestiniens qui ne souhaiteraient pas se soumettre à l'ordre colonial, en gros. Et donc là, ils attaquent particulièrement les populations bédouines qui sont dans des zones plus isolées, forcément, avec du bétail, etc., et qui peuvent moins se défendre, si on peut dire, puisqu'ils sont isolés, dans l'idée de récupérer des terres et aussi du bétail. Il y a du vol, en fait, aussi, de bétail. On a vu aussi beaucoup d'attaques sur... vous savez, c'était la saison de la collecte des olives en ce moment. Et donc, grande difficulté pour les agriculteurs d'aller collecter leurs olives à certains endroits parce que attaques de colons, mais aussi vol d'olives, etc. Donc, avec vraiment on a vu des petites affiches qui étaient distribuées dans certains villages en disant partez ou sinon c'est le moment de cette fameuse Nakba. Donc il y a ça. Il faut dire aussi qu'il y a une sorte de connivence de plus en plus aiguë entre l'armée et les colons à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une prise de pouvoir des colons dans tout l'appareil colonial, mais c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle l'administration civile. Qui est en fait une administration militaire qui gère les questions civiles relatives aux Palestiniens, a été complètement envahie maintenant, on peut dire, par les colons qui en font le personnel principal. Les colons aussi sont beaucoup dans les unités qui servent en Cisjordanie. Il y a même une unité qui s'appelle l'unité de la frontière du désert, qui a été créée il y a quelques années, qui est vraiment une unité qui est là pour, rééduquer, réhabiliter, entre guillemets, ceux qu'on appelle les jeunes des collines, qui sont ces colons extrêmement violents, qui sont dans des colonies dites illégales, bon, sachant que toutes les colonies sont illégales, mais enfin, dans ce qu'on appelle les outposts, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus par l'État, et qui sont des colons, des jeunes colons très très agressifs, et qui ont donc cette unité qui du coup se charge de ces zones désertiques, du désert de Jérusalem, du désert de Cisjordanie, et où se trouvent beaucoup de ces populations bédouines, et qui, eux, sont vraiment dans une démarche extrêmement, extrêmement violente, en fait.
Dans un entretien accordé à France Info, hein, vous rappelez effectivement que les attaques de colons se sont multipliées depuis 1 ou 2 ans, alors que les périodes de confinement durant la pandémie de Covid-19 ont permis une colonisation accrue. Hein. Vous parlez davantage d'une accélération de ce processus depuis le 7 octobre.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On voit juste que ce qui s'est passé le 7 octobre, donc il y a à la fois tout ce discours de la vengeance de la part des colons, et puis il y a cette possibilité de dire bon bah voilà, finissons-en avec les Palestiniens ou allons au bout de ce processus.
C'est vrai qu'on se souvient que en février déjà. En février dernier, une centaine de blessés, près de 80 maisons palestiniennes avaient été incendiées par des colons. Il y a eu aussi des raids à Jenin et à Naplouse. Donc c'est une situation qui précède le 7 octobre, mais qui grandit et qui a le blanc-seing du gouvernement. Comme
tout
vous
à fait.
Rappelé.
Là, on assiste depuis quelques années à des phénomènes qui ont été d'ailleurs qualifiés par des Israéliens de pogrom. Moi, j'étais en juin en Cisjordanie et il y avait eu cette attaque contre la ville de Turmus Aïa où il y avait eu ils avaient brûlé la ville, des champs. Donc les attaques sur les champs sont vraiment très très fréquentes en fait. Hein. Brûler les récoltes, couper les oliviers, etc. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais là on sent vraiment cette espèce de violence débridée sans plus aucun garde-fou en fait.
Les diplomaties européennes et américaines ont d'ailleurs condamné à plusieurs reprises la recrudescence des attaques des colons et des soldats contre les civils palestiniens depuis 7 octobre. Mais Israël n'en a que faire. Le gouvernement a débloqué 105 millions de dollars supplémentaires en faveur des colonies Cisjordanie. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est déclaré consterné d'apprendre qu'en pleine guerre, Israël a accordé de nouveaux fonds à la construction de nouvelles colonies illégales, alors qu'elles sont toutes illégales. Il a ajouté « La colonisation constitue une grave violence des droits internationaux de l'homme. Est-ce qu'Israël n'est pas en train de perdre ses précieux alliés occidentaux ?»
Bah écoutez, je ne sais pas. Je pense que la communauté internationale peut-être finit par se dire que la solution qui avait été envisagée jusque-là, qui était maintenir un conflit dit à basse intensité tout en évitant toute négociation politique, donc ça c'est la solution de Sharon et de Netanyahou depuis 20 ans, ne fonctionne pas, puisque ce conflit n'est pas maintenu à basse intensité, tel qu'on le voit, et que au final, cette annexion de la Cisjordanie ne passera pas. Si on se rappelle les objectifs politiques qu'avait fixé le Hamas à l'attaque qui l'a conduit, puisqu'il avait derrière cette attaque d'une violence inouïe, certes, mais il avait affiché des objectifs politiques. Et ces objectifs politiques étaient notamment que la Cisjordanie ne soit pas annexée. Donc ça fait partie des objectifs politiques. Donc tout ça pour dire que la stratégie donc qui est à la fois maintenir ce conflit à basse intensité à partir de différents types de dispositifs qui ont été mis en place depuis la fin de la seconde intifada, donc en 2006, ont joué sur deux choses. Déjà, la mise en place d'un certain nombre de checkpoints à la fois fixes et volants en Cisjordanie, à peu près 600, qui peuvent être mobilisés en fonction de la situation, qui constituent des sortes de cellules territoriales, c'est un mot qui est employé par l'armée, qui permet d'ouvrir et de fermer de petites zones en cas de conflit. Et par ailleurs, renouvellement des incarcérations massives et système de permis. Les deux permettant de gérer, en fait, les mobilités des Palestiniens dans un espace sans frontières, puisqu'un espace où il n'y a pas de frontières entre Israël et la Cisjordanie. Donc du coup, une sorte de gestion du risque par l'incarcération d'un côté et les arrestations, et par ce régime de permis qui fait que on vous octroie un permis pour... Il y a 101 types de permis différents pour circuler, pour aller à Jérusalem, pour se rendre à Gaza, pour voyager en Jordanie. Enfin, il y a différents types de permis, selon que vous allez à Jérusalem pour prier à la mosquée Al-Aqsa, selon que vous allez pour des questions de santé, etc. Donc il y a cette gestion qui avait été pensée, avec cette idée aussi de normaliser avec les pays arabes.
Nous allons continuer avec ce qui se passe dans les médias, en parlant d'une interview qu'a faite Mohamed Kassi au porte-parole de l'armée israélienne sur TV5 Monde, et donc nous allons voir ce qui s'est passé exactement, sachant que ce porte-parole est en général très très agressif et il n'aime pas trop être contredit. Voilà, nous écoutons.
Mohamed Kassi pose tout simplement au porte-parole propagandiste de l'armée d'Israël, lui pose simplement la question de savoir si l'armée allait considérer qu'il faille de manière impérative un couloir humanitaire de façon à sauver les Gazaouis. Et voilà comment se poursuit l'échange. Vous allez voir, c'est très tendu.
Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégré le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens, et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre, et que cette opération, qui est pour nous existentielle, se fera dans le contexte du respect du droit international.
Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire?
Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire?
Non, moi, je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question.
Non, mais moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non.
Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible.
Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain?
Donc vous allez faire ici. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir?
Donc, nous nous arrêtons là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous disons au mois prochain, nous serons en 2024 pour une prochaine revue de presse internationale. Au revoir.
Au revoir, Bernard.